journal. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Un cercueil porté par une foule qui manque de tomber face à la charge de la police israélienne. L'image des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh à Jérusalem aujourd'hui. L'Union européenne se dit consternée. Nous sommes sur place. Est-ce une volte-face ou une manœuvre pour faire baisser le prix d'achat? Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, suspend le rachat de Twitter. L'actualité, c'est encore 7 policiers de la BAC de Nancy condamnés pour des insultes racistes à l'encontre de collègues. En révélant à ses abonnés sur Instagram être en phase terminale de son cancer, une Britannique récolte plus de 5 millions d'euros de dons pour la recherche. Et puis le choix culture du vendredi nous emmène au stade pour un spectacle mêlant le rap et la langue de Racine. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. Promesse faite par Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle à Marseille. Je nommerai un Premier ministre directement chargé de la planification écologique, avait-il dit. En attendant de savoir qui sera nommé à ce poste, on va s'interroger ce soir sur le contenu de cette planification. Peut-on croire à un quinquennat vert? Vous nous appelez au 01 45 24 7000.
France Inter. Sidérantes images aujourd'hui à Jérusalem. Journée d'obsèques de la journaliste Shirin Abu Akleh tuée avant-hier en plein reportage. À peine le cercueil sorti de l'hôpital porté par une foule dense brandissant des drapeaux palestiniens. La police israélienne s'est mise à charger.
I've never seen a scene like this. Look at that. Attacking innocent people, carrying a casket.
Je n'ai jamais vu ça. Incroyable. Extrait de la chaîne Al Jazeera où travaillait la journaliste et qui diffuse les funérailles en direct. Face à la charge, le cercueil menace de tomber. Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem, Frédéric. Vous avez suivi toute cette journée que l'on imaginait pleine d'émotions. On redoutait aussi des tensions et ça a été pire que prévu.
Comme souvent, la ville était quadrillée par les policiers en noir, en gris ou en kaki. La police montait, l'hélicoptère et les barrières, mais jamais, jamais on avait vu les forces de l'ordre molester des porteurs de cercueils à la sortie d'un hôpital, l'établissement Saint-Joseph à Beit Hanina, quartier palestinien de Jérusalem-Est. Coup de pied, de poing, de matraque, le cercueil tombe. Houda Imam, une activiste culturelle palestinienne, a tout vu.
Nous avons bloqué parmi plusieurs barrages avec les chevaux, avec leur lacrymogène. Shirin, elle nous représentait tous. Shirin était dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque camp réfugié. Toute la Palestine fait le deuil de Shirin. C'était pas comme ça depuis les obsèques de Yasser Arafat.
Le cercueil et la foule ont encore du mal à arriver jusqu'à la vieille ville. Devant l'église grecque, la foule est dense, éplorée, en rage. C'est toute la Palestine, me dit Michel.
Je suis palestinien avant tout, puis chrétien. 99% des gens que tu vois ici sont des Palestiniens musulmans et veulent lui dire merci pour tout ce que tu as fait. Elle disait la vérité, toujours la vérité, et elle l'a payé de sa vie, le prix de la vérité. Comme journaliste, tu es une cible, fais attention.
Shirin Abu Akleh a ensuite été inhumée au cimetière chrétien du Mont Sion aux côtés de ses parents.
La journaliste a été tuée avant-hier alors qu'elle couvrait une opération israélienne à Jenin en Cisjordanie. Frédéric, où en est l'enquête ?
Aucune avancée, moins accusatrice contre les Palestiniens qu'il y a 48 heures. L'armée israélienne déclare qu'en l'état, on ne peut pas savoir d'où est parti le tir. De son côté, l'autorité palestinienne refuse une enquête conjointe ou même de transmettre la balle qui a tué notre consoeur. Mais ce soir, cette enquête paraît reléguée au second plan étant donné les violences de la journée. La police israélienne affirme qu'elle a dû recourir à la force après que des Palestiniens ont chanté des chants nationalistes vengeurs et jeté des pierres. Mais l'impact de ces images est terrible pour Israël qui a perdu aujourd'hui une bataille de communication.
Frédéric Mettezo, notre correspondant à Jérusalem en direct. L'Union européenne ce soir se dit consternée par l'usage de la force inutile, je cite, d'Israël. 15 pays européens dont la France, l'Allemagne et l'Italie demandent par ailleurs à Israël de revenir sur un projet de construction de 4000 logements en Cisjordanie. Ce sera un obstacle supplémentaire. Ce serait un obstacle supplémentaire à une solution à deux États, juge la diplomatie de ces 15 pays. Faut-il garder le contact à tout prix avec Vladimir Poutine? Au 78e jour de guerre en Ukraine, le président ukrainien pose une nouvelle fois la question de l'utilité du lien que tente de maintenir Emmanuel Macron avec le président russe. Tout cela est vain, juge Volodymyr Zelensky. La médiation ne donne rien.
On ne doit pas chercher de porte-sortie pour la Russie. Et M. Macron n'aurait pas dû le faire. Je sais qu'il cherchait à obtenir des résultats. Mais en jouant les intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine, il n'a pas réussi. Ni avec nous, ni avec la Russie. Me proposer, à moi, de faire des concessions sur notre souveraineté pour permettre au président Poutine de sauver la face, voyez-vous, ce n'est pas très approprié de la part d'un leader politique. Nous ne sommes pas prêts à céder quoi que ce soit à personne, ni à perdre nos territoires pour ça.
Volodymyr Zelensky, interrogé par la télévision italienne, le temps de se mettre autour d'une table avec la Russie est terminé, dit-il, alors que Kiev accuse la Russie d'avoir déporté 1 200 000 Ukrainiens depuis le début de l'invasion. Le Kremlin qui parle d'évacuation. France Inter a pu recueillir le témoignage de l'un d'entre eux. Vous le retrouverez sur franceinter.fr. L'armée russe, elle, s'est redéployée, on le sait, dans la partie est du pays. Elle a ciblé une raffinerie de pétrole, aujourd'hui visée par plusieurs tirs de missiles, mais elle perd du terrain par endroits repoussés par la résistance ukrainienne. La guerre qui incite la Finlande et la Suède à se rapprocher de l'OTAN. Et jusqu'ici, tout laissait penser que cela pouvait se faire rapidement. Mais aujourd'hui, la Turquie jette un froid. Une adhésion serait une erreur, juge-t-elle, au risque de bloquer l'ensemble du processus, puisqu'il requiert l'unanimité des membres de l'Alliance Atlantique. Anand Lauer est à Istanbul.
Nous n'y sommes pas favorables, la Turquie ne veut pas faire deux fois la même erreur. C'est avec ces formules peu diplomatiques que Recep Tayyip Erdogan s'est opposé à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Le président turc a accusé ces États d'être des maisons d'hôtes pour organisations terroristes, citant le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et le DHKPC d'extrême gauche. Tayyip Erdogan a fait le parallèle avec l'adhésion de la Grèce, qu'il a accusé de liguer l'OTAN derrière elle contre la Turquie. Les tensions entre Ankara et plusieurs pays européens, en particulier la Suède, au sujet du PKK et de son émanation syrienne, les YPG, sont récurrentes. Mais la déclaration tranchée de Tayyip Erdogan peut surprendre. Le président turc, qui s'estime en position de force au sein de l'OTAN ces derniers mois, grâce à son rôle d'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie, et qui cherche à ménager cette dernière, semble saisir l'occasion pour faire pression sur ses alliés occidentaux au sujet des combattants kurdes. En 2019, il avait refusé de soutenir un plan de défense de l'OTAN pour les Pays-Baltes et la Pologne, tant que les membres de l'Alliance n'auraient pas reconnu les YPG comme un groupe terroriste. Ankara avait finalement revu sa position sans obtenir gain de cause. Alors de Istanbul, RFI pour France Inter.
Et les discussions sont donc prévues ce week-end entre la Suède, la Finlande et la Turquie à Berlin en Allemagne.
Il est 19h08 sur France Inter, la suite du journal d'Hélène Philly. Avec cette question, Hélène, Elon Musk serait-il en train de renoncer à racheter Twitter?
Le multimilliardaire envoie en tout cas des signaux plus que contradictoires. Premier tweet aux aurores, Elon Musk annonce suspendre l'acquisition du réseau social. Il veut un audit sur la proportion de faux comptes présents sur la plateforme. Nouveau message quelques heures plus tard, il suspend mais il reste intéressé. Vent de panique sur Wall Street qui se demande si l'homme le plus riche du monde n'est pas en train de faire marche arrière. La correspondance aux États-Unis est signée Loïc Piala.
Elon Musk veut mener un audit pour s'assurer que les bots et les faux comptes constituent bien moins de 5% des utilisateurs de Twitter. Mais ce pourcentage est connu depuis des années. Difficile d'imaginer que le milliardaire n'était pas au courant lorsqu'il a fait sa première offre de rachat le mois dernier. L'idée qu'il n'aille pas au bout de l'opération a toujours été dans l'air à Wall Street. Alors les analystes se demandent s'il ne cherche pas une excuse pour renoncer à l'acquisition ou pour négocier le rachat à la baisse. Il a transformé ce qui était déjà un cirque en film d'horreur du vendredi 13, a commenté l'un d'entre eux. On oublie souvent que la fortune de l'homme le plus riche du monde n'est pas sur un compte en banque, mais qu'elle est indexée à l'action Tesla. Et le titre a perdu un tiers de sa valeur depuis que Musk a annoncé son intention de racheter Twitter. 400 milliards de dollars évaporés en un mois. Les investisseurs ont peur que le réseau social devienne une distraction. Musk a toujours la possibilité de se retirer du deal, mais devra s'acquitter d'une pénalité d'$1 milliard. Un moindre mal pour une opération à 44 milliards. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
En France, le plongeon de près de 60% du bénéfice net d'Orpea fragilisé visé par les accusations de maltraitance qui le visent. Le groupe d'EHPAD vient de signer un accord avec ses banques pour assurer son financement. Le chiffre d'affaires lui est toujours en hausse, plus de 9% au premier trimestre. Ils étaient poursuivis pour harcèlement moral et insultes racistes. Le jugement est tombé pour 10 policiers de la BAC de nuit de Nancy en Meurthe-et-Moselle. 3 d'entre eux sont relaxés, les autres en revanche sont condamnés à des prisons avec sursis de 6 mois à 5 ans, 18 mois pour celui qui est considéré comme le meneur et une interdiction définitive d'exercer le métier de policier. Des peines lourdes mais justes pour maître Frédéric Bernal, un des avocats des parties civiles.
C'est une réaction extrêmement ferme de la part de la justice face à des comportements qui sont absolument déplorables. J'espère que ce message judiciaire incitera tous ceux qui subissent ce genre de faits au sein de l'administration de la police, mais aussi au sein des autres corps constitués, à se rendre compte que la parole doit se libérer et que la justice est capable d'entendre ceux qui déposent plainte. Je crois que la justice est passée et que le message est clair. Le racisme n'a pas sa place dans la police, le harcèlement n'a pas sa place dans l'administration et dans les relations de travail.
Frédéric Bernin avec Mohamed Chibani de France Bleu Lorraine. Justice encore, la cour d'appel donne raison à Annick Agnel, l'ancien champion olympique de natation, dans le litige financier qui l'oppose au club de Mulhouse. Club condamné à payer au nageur la dernière année de son contrat l'équivalent de 60 000 euros. On le sait donc, depuis hier soir, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Il passe le témoin à Marseille, la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, à Manuel Bompard. Choix logique pour le patron des Insoumis, même si son successeur est peu connu du grand public. Député européen depuis 2019, il est aussi l'un des principaux négociateurs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonsoir Laurence Perron. En d'autres termes, son bras droit, il symbolise la relève.
Oui, Bompard, c'est une tronche, hein, s'esclave Jean-Luc Mélenchon. Faut de la science pour faire des accords dans 577 circonscriptions. Moi, je suis incapable de faire une règle de 3, mais j'ai Bompard. Si Manuel Bompard se résumait à son 20 sur 20 en maths, au bac ou à son doctorat, son diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle, l'insoumis en chef n'en aurait pas fait depuis 2014 son directeur de campagne. Ils se connaissent depuis la création du parti de gauche en 2008. Bompard avait 22 ans et très vite Mélenchon lui confie l'organisation de la base militante parisienne, comme il lui confiera ensuite celle de Toulouse. Là, clairement, la mission du trentenaire n'est pas seulement de se faire élire à Marseille, mais de structurer une vraie force aux portes de la Méditerranée, tout en continuant d'animer le collectif et de parler à l'oreille du chef, pas du tout retraité. Les hologrammes, c'est lui. Mélenchon à Matignon, idée du patron, mais l'ingénierie, c'est lui. Manuel Bompard est sans doute aujourd'hui l'héritier le plus direct de l'insoumis depuis le décès de François de la Pierre en 2015. Il a gagné ses galons. Sachez que tout cadre insoumis se voit remettre un ouvrage par le prof Mélenchon. Bompard a reçu « Socialisme utopique et socialisme scientifique » de Friedrich Engel. En allemand dans le texte, non ça c'est une plaisanterie, mais Jean-Luc Mélenchon qui trouve la langue germanique vivifiante, aime à saluer ainsi son directeur de campagne, Wiegetz Bompard, comment ça va Bompard? Eh ben ça tombe bien, le garçon a fait allemand première langue.
Voilà pour l'anecdote, merci Laurence Perron. Et dans la majorité, la liste des candidats aux législatives quasi bouclée, une quinzaine de territoires restent encore sans candidats, certains n'en auront pas du tout, comme la 5e circonscription de l'Ain où se présente le LR Damien Abad, qui avait clairement appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen avant le second tour.
Au Royaume-Uni, son combat contre le cancer émeut tout le pays.
Ça fait 6 ans que Deborah James raconte son quotidien, sa bataille contre la maladie dans un podcast sur la BBC. Elle est mère de 2 enfants, 14 et 12 ans, et elle vient d'annoncer être entrée en soins palliatifs sans savoir combien de temps il lui reste à vivre. Appelant aussi à donner pour la recherche. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Élan incroyable. En quelques jours, plus de 5 millions d'euros ont été récoltés.
Oui, la quadragénaire a totalement dépassé son objectif initial de 250 000 livres, une somme multipliée par 20. Donc ce soir, cette collecte, c'est le Bowell Babe Fund. Bowell Babe, c'est le nom de Deborah James sur Instagram. Oui. Une somme qu'elle veut consacrer à la recherche contre le cancer colorectal. Son état s'est aggravé ces 6 derniers mois. Elle raconte dans son podcast ce point de non-retour atteint il y a quelques jours.
Je pourrais dire que je vais bien, mais ce n'est pas le cas. La semaine dernière, j'ai bien senti ce qui allait arriver, ce qui était en train de se passer depuis les 5 dernières années. Mon foie ne fonctionne plus. Nous avons absolument tout essayé. Mes médecins m'ont dit, tu n'as plus qu'à boire du champagne et du rosé.
Il y a toujours cette forme d'humour, de légèreté presque dans cette tragédie. C'est ce qui marque toutes les publications de Deborah James à chaque stade de son cancer. À cette collecte de fonds, ce combat fait donc beaucoup réagir au Royaume-Uni, à commencer par la reine Elisabeth. Elle anoblit l'influenceuse et lui donne le titre prestigieux de dame. Sa chaleur et son courage sont une source de force pour de nombreuses personnes, écrit aussi le Premier ministre Boris Johnson. Deborah James fait enfin la une du tabloïd Le Sun, saluant une femme qui inspire la nation britannique.
Et vous parliez de la reine William qui a renoncé il y a quelques jours à prononcer le traditionnel discours du trône. Elle est réapparue aujourd'hui, un prestigieux concours équestre à Windsor. Une fièvre qui se propage et inquiète en Corée du Nord. Pyongyang vient d'annoncer son premier mort du Covid, précisant que le virus s'est répandu à travers tout le pays. L'immense défilé militaire de fin avril mis en cause et aucun habitant n'est vacciné. En France, on espère à l'inverse tourner le dos à l'épidémie, du moins tant qu'un nouveau variant n'apparaît pas. Santé publique France estime qu'il y a eu près d'1 million de cas de réinfection à cause du variant Omicron. Et alors que la chaleur et la sécheresse inquiètent ces derniers jours en France, voici une initiative prometteuse. Dans le pays de Montbéliard, l'Office national des forêts propose de planter des parcelles test avec des essences d'arbres plus résistantes à la chaleur. Vaugecourt est la première commune à se lancer et c'est le reportage de Christophe Beck.
En lisière de cette parcelle de Vaugecourt, on aperçoit encore quelques épicéas séchés sur pied par les derniers étés. Hervé Chevalier, technicien forestier à l'ONF du Doubs.
Dans le nord-est de la France, on risque d'avoir dans les années futures le climat de Lyon, voire du sud de la France. Donc on essaie d'introduire des essences plus méditerranéennes.
Ici, ce sont 1430 pins d'origine turque qui ont été plantés à la sortie de l'hiver. Encore tout petit, constate Marilyn Gineste, l'adjointe au maire de Vaugecourt, en charge de l'environnement.
Des tout petits pins, oui, mais qui ne demandent qu'à pousser. Pour qu'ils prennent 2-3 cm, il faut combien de temps?
Ah oui, c'est des pins qui, la première année, vont peut-être prendre 10 cm. Mais...
Ces parcelles seront suivies scrupuleusement pendant 20 ans pour observer leur adaptation au climat franc-comtois. D'autres îlots d'avenir sont en réflexion dans le pays de Montbéliard.
Sur le pays de Montbéliard, pour l'instant, Vaugecourt, on est les précurseurs. C'est vraiment la première commune qui a adhéré à ce projet. On a d'autres projets tels que Étupe et Touvent.
Des îlots qui ont un coût, mais ils sont soutenus, notamment par la région Bourgogne-Franche-Comté.
On a de la chance d'être bien subventionné par la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous subventionne à hauteur de 80%. Donc
14 000 euros pour l'achat et la plantation de ces 1430 pins de Brucie à Vaugecourt.
Reportage France Bleu, Belfort-Montbéliard. Et le choix du service culture nous emmène dans le Calvados ce soir pour le festival Avif qui se déroule à Vire, spécialement connu pour les conçus, pour les adolescents, pour eux. Et avec eux, car ils sont acteurs également, comme dans cette création, On m'a dit la fureur de mes frères, qui mêle le rap et la langue de Racine, le tout au City Stade du Val de Vire. Reportage signé Stéphane Capron.
Article numéro 1, le City Stade appartient à tout le monde.
Ils jouent d'habitude au basket ou au foot, mais depuis plusieurs mois, une vingtaine d'adolescents se mettent dans la peau des personnages de la Thébaïde, la tragédie de Racine, un projet mené par la comédienne Najda Bourgeois.
Ils se sont vraiment emparés de la langue de Racine alors que certains n'avaient jamais dit de texte de théâtre de leur vie. Alors on a travaillé l'addiction, les vers et tout ça, mais en faisant l'écho avec le contemporain, ils l'ont vraiment fait leur en fait.
Quelques haine qu'on ait contre un fier ennemi, quand il est loin de nous, on la perd à demi.
Les vers raciniens côtoient le phrasé du rap.
Créons à son exemple à jeter pas les armes. Et vers ce fils mourant est venu tout en larmes.
Dans une formidable alchimie orchestrée par Baptiste Maliora.
Le plus souvent, c'est un cri qui vient de très profond, quoi, et qui résonne très fort avec cette histoire très ancienne de la Thébaïde et de la lutte fratricide entre Théocle et Polynice.
Et cela résonne avec le quotidien de Rémi et Tess.
Avant, je connaissais pas. Puis maintenant, je m'intéresse grave à ça et j'aime trop. Et en plus, bon, il y a de l'action, il y a de tout, quoi. J'adore.
Moi, c'est plus l'histoire du quartier, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut parler de ce sujet parce qu'il y a trop de morts
qui meurent pour rien dans les quartiers.
Un spectacle coup de poing d'une grande maîtrise artistique qui prouve que les grands textes du répertoire sont indémodables.
Je me sens pas propre, je ressens l'enfer à chaque jour que la mort approche ici-bas. Ray, mes faiblesses m'ont eu.
Le festival à Vif, c'est jusqu'au 18 mai à Vire, dans le Calvados. C'était le choix culture du vendredi soir de Stéphane Capron. Et voici une autre voix qui restera dans la légende, celle de la mezzo-soprano Teresa Berganza, morte aujourd'hui à Madrid à 89 ans. De Georges Bizet ici, Carmen, on l'aura reconnu à Mozart, la cantatrice restera une référence majeure, l'une des très grandes artistes lyriques de la seconde moitié du XXe siècle.
Heureusement que les disques, ça existe, hein. Franchement, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Un grand merci, Hélène Fini, on va prendre des nouvelles du temps.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir à Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Très ensoleillé et plus chaud demain.
Oui, beaucoup de soleil. Sur l'ouest du pays, le soleil sera un peu voilé quand même le matin. Davantage l'après-midi avec une averse possible sur la pointe bretonne. Ça se gâtera à partir de la fin de la journée sur le sud de l'Aquitaine avec l'arrivée d'averses et d'orages qui remonteront vers le nord-ouest dans la nuit. Et puis en montagne, une petite averse possible dans l'après-midi. Côté thermomètre, ça va monter. Alors 17 degrés à Cherbourg, 24 à Lille, 25 à Strasbourg, 26 degrés à Paris, 27 à Nantes et à Lyon, 29 degrés du côté de Limoges, 30 à Nîmes. Et on ira jusqu'à 31 à Bordeaux ou à Toulouse.
Et dimanche, il y aura plus d'orages.
Oui, alors encore du soleil à l'est, mais en effet, des Pyrénées vers le nord-ouest, des averses orageuses circuleront. Elles gagneront le bassin parisien, la Bourgogne et le nord de la Seine dans l'après-midi. Et puis, il fera encore un peu plus chaud, souvent 25 à 31 degrés. Un peu moins près de la Manche et de la Méditerranée, avec 21 à 27 degrés.
C'est noté. Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.